L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 268e numéro de L'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre.
Sans jingle, parce qu'il y avait un bouton qui n'était pas appuyé.
Je pourrais reprendre le jingle bruité
à
la voix.
On le mettra à la fin de jingle.
On le mettra à la fin. C'est donc la semaine percée, l'actualité des deux semaines écoulées. Pierre, bonjour. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit bonjour.
Bonjour Alexandre.
Je manque à tous mes devoirs de présentateur. Et comme de coutume, nous allons entamer les actualités par des nouvelles Internet et vie privée. Et nous allons parler de Julian Assange. Ça fait quelque temps qu'il était, on va dire, oublié, mais un petit peu moins présent.
Oui, voilà, il est moins présent dans l'actualité, malheureusement.
Dans l'actualité, oui, dans les médias. Donc, Julian Assange qui donc tente ses derniers recours pour éviter donc l'extradition aux États-Unis. Donc il s'était réfugié dans l'ambassade
de l'Équateur.
L'Équateur, oui. Hein, je dis pas de bêtises. Durant plusieurs années, donc il en a été expulsé, cherché par les autorités britanniques qui veulent l'extrader vers le Royaume-Uni. Donc c'est la
volonté, les États-Unis,
pardon, c'est donc la volonté de l'exécutif, mais il y a quand même une procédure judiciaire à respecter, et donc Julian Assange a le droit encore à certains recours. Donc cette fois-ci, la stratégie de la défense n'est plus de s'appuyer sur l'état de santé qui s'est énormément détérioré durant donc les plusieurs années d'exil intérieur, de confinement de Julian Assange.
Ouais.
C'est
gentil encore de parler de confinement pour ce qui est subi quand même.
Ouais, la réclusion, hein, on peut dire les mots. Donc cette fois-ci, donc c'est le fait que a priori on ne pourrait pas extrader des personnes vers les États-Unis pour des raisons politiques, ce que nient les avocats du gouvernement américain. Donc, là, je ne m'immiscerai pas dans les arcanes du droit anglo-saxon et des conventions d'extradition entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc Julian Assange, hein, on le rappelle, qui est donc le fondateur de WikiLeaks, qui est donc poursuivi pour espionnage par les États-Unis, puisque
et qui est journaliste. C'est journaliste poursuivi pour espionnage.
Et journaliste, oui.
Ça aggrave.
Bah, c'est essentiellement pour son rôle dans WikiLeaks et d'avoir permis donc la divulgation de documents secrets concernant les États-Unis, les pratiques des autorités américaines, de l'armée américaine, de la CIA.
Et on va rajouter
très démocratique.
Ce qui lui est reproché aussi, quand même, c'est un crime grave. Hein. Il a inspiré d'autres personnes. Ça, c'est criminel.
Je ne connaissais pas le crime d'inspiration.
Moi non plus, je l'ai découvert. Faut pas donner
les mauvaises imaginations, hein, quand même, les avocats états-uniens.
Ouais. On est loin.
Alors, il risque jusqu'à 145 ans de prison. Donc, c'est les peines cumulatives, hein, comme aux États-Unis.
Oui.
A priori, plutôt 30 ou 40 hors TTC. Hein. Les procureurs américains lui promettent pas plus de 63 mois.
Oui, oui. C'est...
Bon, c'est les promesses, tout ça. Une fois qu'il sera aux mains du gouvernement américain. La défense a peur, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir peur que Julian Assange disparaisse aux États-Unis soit suicidé.
Non.
En sachant qu'il y a eu des tentatives d'assassinat de la part du gouvernement américain envers Julian Assange lorsqu'il était réfugié dans l'ambassade d'Équateur. On part cette fois-ci à Strasbourg, via la Russie, ou la Russie via Strasbourg, avec donc une décision de la Cour européenne des droits de l'homme donc de Strasbourg, sachant que ce n'est pas l'Union européenne, mais c'est le Conseil de l'Europe, dont la Russie
faisait partie jusque juin 2022, septembre 2022, quelque chose comme ça. Ils sont sortis en cours de route.
Donc la décision n'aura pas valeur contraignante en Russie, mais quand même, pour le principe, c'est une bonne nouvelle, puisque les lois obligeant donc enfin les fournisseurs de messagerie instantanée à installer des backdoors, donc des portes dérobées pour pouvoir contourner le chiffrement des communications des utilisateurs, et donc contraire aux droits humains, ce qui est une jurisprudence intéressante. Alors sachant que, si je ne dis pas de bêtises, le Royaume-Uni est toujours fait toujours partie du Conseil de l'Europe et donc est toujours sous la législation de la Convention européenne des droits de l'homme. Sachant que c'est quand même les plus, c'est pas les seuls, hein, mais alors c'est les plus motivés, c'est ceux qui sont le plus engagés dans cette direction.
En tout cas, sous-estime pas Darmanin, s'il te plaît.
Oui, mais c'est
laisse-lui sa place.
On n'a pas de gros mots à l'antenne, s'il te plaît, Pierre.
Pardon. GG.
S'il te plaît, merci. Sois pas insultant envers les personnes qui s'appellent Gérald non plus. Ils méritent pas tous. Il y en a des biens.
Ouais.
Mais enfin, en tout cas, c'est ceux qui font preuve de la volonté la plus nette.
La plus malhonnête, mais oui.
Nette et malhonnête, hein. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Donc c'était une plainte donc utilisateur russe de Telegram contre le FSB donc qui est le nouveau KGB, KGB hein, voilà, qui est l'équivalent du KGB dans la Fédération de Russie. Voilà, c'est pas tant pour les effets directs de cette décision puisque de toute manière ça ne s'appliquera pas. De toute façon, je pense pas que la Russie faisait beaucoup de zèle à l'époque où elle faisait partie du Conseil de l'Europe. Quant à l'application des décisions de justice.
Là, ils disent qu'ils s'en foutent parce que la décision, elle est venue depuis qu'ils sont ont quitté. Oui, alors que la Cour s'estime compétente parce que les faits datent d'avant qu'ils aient quitté. Mais en gros, ils ont dit, on s'en fout.
De base, ils s'en foutent.
Oui.
Parce que bon, les champions
c'est
du
un
monde.
C'est un état démocratique, pourtant. Pas. Non.
Non, c'est
là, j'ai cru.
C'est pas drôle, Pierre. Je t'apprendrai la blague, pas drôle. C'est toute une,
oui,
toute une
c'est technique. Ça.
Donc, hein, parmi les mauvais élèves, les pays les plus souvent condamnés, il y a quand même la Russie, il y a la Turquie, et pas loin derrière, il y a la France.
Oui, mais on suit les grands exemples. On suit les très grands exemples des démocrates du monde moderne.
Bon, en tout cas, c'est une jurisprudence qui fait quand même plaisir, mais rassurante.
S'il était temps. C'est souvent les nouvelles, elles sont moins bonnes que ça, donc autant en profiter pour une fois, c'est vrai.
Alors, on vous parle souvent ces dernières émissions du Digital Market Act, donc, qui est une directive européenne visant donc, à réguler les services en ligne essentiels, à éviter des abus de position dominante. On avait vu que certains arrivent à en échapper. Alors, et notamment, il y avait les sites pornographiques. Alors, c'était pas le DMA, c'était peut-être le...
DSA
c'était
pour les sites pornographiques. Attention, il y a eu un impact de réglementation. Il ne faut pas confondre les deux, mais moi, j'ai du mal encore. Hein. C'est bizarre.
Puisque suite à une analyse approfondie demandée donc par Microsoft et Apple, iMessage, donc la messagerie propriétaire Apple, Bing, donc la moteur de recherche de Microsoft Edge, leur navigateur internet et Microsoft Advertising que je ne connaissez pas, mais c'est l'équivalent de Google Ads.
C'est normal qu'on connaisse pas.
Ne seront pas concernés, donc ne sont pas considérés comme des services qui ont une position dominante suffisante, enfin pas une position dominante du tout, pour pouvoir être visés par cette réglementation.
Exactement.
Alors iMessage, parce qu'effectivement... Enfin, Apple,
on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, Apple est dans une position dominante sur iMessage. Et surtout, aux États-Unis, ce qui fait mouche actuellement, c'est le fait que Apple s'amuse à mettre dans une couleur différente dans les messages les gens qui n'ont pas de téléphone iPhone. Ça fait quand même grincer les dents.
Bing, effectivement. Bon,
qui utilise ?
Par contre, Edge. Alors, effectivement, leur part de marché doit pas être phénoménale, puisque Chrome écrase à peu près toute la concurrence. Hein. Edge et Firefox sont à peu près les seuls à surnager. Peut-être Safari pour l'utilisateur.
Safari aussi, oui.
Mais Edge a quand même un lien avec Windows. Et est-ce qu'on considère que c'est Windows, Microsoft Windows, qui serait plutôt visé que Edge ? Ce serait plutôt à Windows, pas poser Edge.
C'est le même service.
C'est
compliqué, ça. C'est un point qui est assez compliqué. Après, Microsoft Advertising, par contre, évidemment, tout le monde de la publicité en ligne appartient à Google. C'est choquant à dire, hein, mais ils ont racheté tout le monde.
Précision intéressante de la commission, hein, puisque ces services ne sont pas considérés comme relevant du DMA dans l'état actuel du marché.
C'est toujours ça.
Actuel.
Oui.
qui fait que la commission se réserve le droit de réviser sa position en cas d'évolution, c'est-à-dire des départs de marché respectifs, de ses services. Ça peut évoluer. Bon, là, c'est vrai qu'il y a comme une forte inertie, mais ne sait-on jamais. Pierre, Apple confirme la fin des PWA en Europe.
Tout à fait. On en avait parlé il y a deux semaines. Il y a deux semaines, c'était en mode, c'est peut-être juste un bug. Mais maintenant, c'est à peu près certain. C'est intentionnel. C'est bon. On va... Pourquoi serait-on obligé de supporter quelque chose qui est compatible avec plusieurs plateformes ? C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste le droit d'obliger les gens à faire des applications pour nos mobiles, et puis ceux qui veulent faire des applications qui marchent sur Android et iPhone, mais ben vous démerdez, c'est pas notre problème. Donc ça, c'est la décision d'Apple suite... Alors, c'est difficile de dire suite à l'application donc, du DMA et du DSA. Donc le changement de règle du jeu en Europe, c'est « Ah, donc on doit pouvoir autoriser l'ajout d'applications depuis autre chose que l'App Store. Bon, ben on va interdire les applications multiplateformes. » C'est de la vraie mesquinerie, et le fait qu'ils l'assument, c'est fantastique. Donc, affaire à suivre. Là où ça va être vraiment chiant, là je parle en connaissance de cause, c'est pour toutes les entreprises qui développent des applications mobiles, mais sans avoir la force de frappe pour avoir des développeurs d'applications mobiles et puis tout tester sur des iPhones, des Android et autres. Bah, les PWA, c'est extrêmement pratique.
À suivre peut-être une plainte auprès de la Cour européenne, enfin la Cour de justice de l'Union européenne.
Il y a déjà un certain monsieur Thierry Breton qui a dit on va regarder ça parce que là c'est un peu foutage de gueule.
Thierry Breton, je lui fais une confiance aveugle. Comme les actionnaires d'Atos.
Oui, forcément.
Excusez-moi pour la
rafale
de mitraillette sur l'ambulance. Pierre, tu parles d'hallucination artificielle.
Ben oui, on parle toujours d'intelligence artificielle, mais le meilleur terme, c'est hallucination artificielle, surtout que là, il y en a eu des belles dans l'eau. Donc tout d'abord, on parle de... Tout le monde connaît le Notepad de Windows, l'éditeur de texte ultra basique. Hein, on peut ouvrir, éditer du texte.
Et qui peut rendre service.
C'est ça. Eh bien, désormais, il y aura l'intelligence artificielle Microsoft Copilot dans... Notepad.
C'est-à-dire que vous n'avez pas la mise en page, vous n'avez pas la coloration syntaxique, vous avez
rien,
que dalle, mais vous avez l'intelligence artificielle.
Pour vous aider à rédiger un texte dans Notepad. J'ai toujours pas compris ce que j'ai lu, moi. Ouais. Là, j'ai pas compris
d'accord,
pourquoi ils
Notepad, c'est quand même, c'est l'outil permettant de lire un fichier texte minimal si tu n'as rien d'autre.
Oui, hein, c'est, grosso modo, c'est ça. Hein. C'est vrai, si t'as pas mieux, t'as ça, mais voilà. Là, ça me semble extrêmement con. Et en fait,
c'est peut-être une ouverture envers le marché des masochistes.
Oui, je sais pas.
Les gens qui font du rédactionnel dans notre patte, je ne sais pas, peut-être.
Peut-être qu'il y en a, mais j'avoue, j'ai du mal à l'imaginer. C'est assez.
Alors, peut-être un galop d'essai, ils n'osent pas le mettre dans Word, leur suite office.
Ils ont déjà commencé à le mettre dans la suite office.
Ils l'ont mis dans la suite office quand même.
Donc, autre. Alors là, on va vraiment parler d'hallucination artificielle. Pendant quelques heures, la semaine dernière, ChatGPT a commencé à raconter n'importe quoi. Mais vraiment, c'était. Ça ne voulait plus rien dire. C'était des séquences de mots inintelligibles. C'était du rien. C'était incompréhensible.
C'est-à-dire qu'on a téléversé en fichier de référence des discours de Donald Trump ?
Non, pire. Ah. C'est encore plus inintelligible que du Donald Trump. C'est dire.
D'accord, oui, si on est quand même.
Ah ouais, non, ça n'avait aucun sens. J'ai vu des captures d'écran, je ne les ai pas retrouvées pour faire l'article là. Mais c'était beau à voir. Il n'y a pas eu d'explication. On a corrigé. C'est beau, les intelligences artificielles, du coup. Et on va continuer.
Alors après, un service qui est en rade, enfin, de manière générale, parce que là, effectivement, les conséquences sont plutôt amusantes, mais au final, un service en rade, on ne sait pas pourquoi, pendant plusieurs heures, et qui est corrigé, on ne sait pas pourquoi, va dire que c'est une première.
Non, c'est pas une première. Là où ça m'amuse beaucoup, c'est tous les services qui disent « Oui, on utilise l'intelligence artificielle de ChatGPT pour automatiser les choses. » Et donc, ça veut dire que ceux qui avaient, je sais pas, leur maison connectée qui dépendait de ChatGPT pour comprendre les instructions, c'était peut-être mets la musique et ça va allumer le four dans la cuisine. Ça peut être une conséquence rigolote.
On continue le festival avec Air Canada, donc la compagnie aérienne, responsable des inventions de son bot.
Oui, c'est magnifique. Je vais pas vous faire toute l'histoire de la personne,
quand vous vous contactez, donc je suppose c'est le bot du support de Air Canada.
Voilà, sur le site web. Alors, la personne avait un problème, il avait un vol et il avait besoin de pouvoir l'annuler éventuellement parce qu'il était dans une situation compliquée.
Bah, je me suis pas rêvé.
Chose qui peut arriver, voilà. Il est allé sur le site, il a contacté le bot de support, parce que c'était la seule option qui lui avait été proposée, et il a posé la question, et le bot lui a dit Il n'y a pas de problème. Si vous regardez nos politiques de remboursement qui sont disponibles à cet endroit, il est clairement indiqué que c'est pris en charge, extrait, deux points. Dans le cas je sais plus quoi, le remboursement est pris en charge. Ouais, donc le mec, il a fait une capture d'écran, pour être sûr, hein, ça s'appelle se protéger. Il a fait sa réservation, effectivement, il a dû faire la demande d'annulation, et l'annulation lui a dit, mais non, c'est pas couvert. Effectivement, dans les conditions, c'est pas couvert. Le bot a inventé le fait que c'était autorisé, que c'était une condition valable de remboursement, ouais, et a inventé un texte pour justifier que c'était une condition de remboursement.
Pour moi, il n'y a rien de choquant. Enfin, c'est juste une erreur. Puis, c'est-à-dire, ils sont responsables de ce qu'ils publient. Enfin,
ils sont responsables de la publication de leur bot.
Ouais, ils sont responsables de ce que. C'est pas une histoire de leur vote, c'est leur interface a indiqué quelque chose et ils sont responsables. Après que ce soit c'est parce que c'est un bot et que le bot a inventé le truc. Mais pour moi, c'est
oui,
vrai que de très. Oui, j'aurais plus d'audit. La formation, c'est plutôt que à l'usage donc, des gens qui utilisent des bots pour les relations commerciales, fait gaffe parce qu'ils peuvent inventer des choses. C'est plutôt ça. Là, pour moi, c'est tout à fait normal que il a eu une réponse d'un service en ligne de Air Canada, ça les engage.
Exactement. C'est la conclusion de la justice. Il a fallu aller en justice pour le démontrer, ouais, parce que Air Canada disait, mais on n'a jamais écrit ça dans nos conditions, on ne peut pas l'appliquer.
Ouais, mais c'est votre site officiel qui a dit ça, moi je suis d'accord.
Et la justice a considéré que...
Comme si tu t'appelais au téléphone et qu'il disait une connerie.
Ils ont considéré que le bot, donc l'intelligence artificielle, a le même rôle qu'un agent au service client, et donc les mêmes responsabilités.
On met des bots pour faire des économies, voilà ce qui arrive.
Ça c'est magnifique, j'ai beaucoup aimé celle-là d'actualité.
Alors Pierre, on parle d'une chose inquiétante, hein, c'est les progrès des fakes sonores, des fakes vidéo. Donc Microsoft nous rappelle que ça ne va pas aller en s'améliorant.
C'est ça, c'est un vice-président de Microsoft qui rappelle que... Alors ils disent, on a un problème, c'est qu'on se rend compte que nos outils sont utilisés pour faire des choses pas très gentilles. Bravo Microsoft, vous avez compris le problème. Et donc, effectivement, ils se rendent compte que oui, leurs outils peuvent être utilisés pour créer de toutes pièces des images, des vidéos et de l'audio, de reproduisant une personne mais disant des choses ou montrant des choses que la personne n'a jamais faites, n'a jamais dites. Et donc, ils s'engagent à éduquer les gens, à travailler sur l'amélioration des législations à travers le monde pour protéger contre ça, etc.
Il y a un gros travail d'éducation. Nous, on le fera parce que là, on est plus informés. Voilà, mais... Sans vouloir être. Les gens, relativement informés le feront, mais est-ce que l'éducation nationale. Pas l'éducation sociale, plutôt.
Toute la communication doit être faite autour de ça.
Non, mais il y a un gros travail d'éducation à faire auprès du jeune public. Et,
de tout le public. Pas que les jeunes. C'est pas que les jeunes, parce que les arnaques qu'il pourrait y avoir autour de tout ça sont assez
fantastiques. J'ai peur que d'un point de vue social, le fossé qui existe déjà se creuse encore plus entre les gens qui ont une éducation par des parents un peu plus vigilants et ceux qui seront des proies, sans défense face à ça. Mais ça, c'est un problème plus sociétal. Dans son ensemble. Allez, une dernière qui est rigolo puisque ça parle de Tinder, donc ça parle de
site de
sous
rencontre.
La ceinture, donc forcément c'est rigolo.
Exactement. Donc le fondateur propriétaire de Tinder et de quelques autres sites, c'est toujours des entreprises qui regroupent plusieurs de ces sites, ils ont signé un accord de plus de 20 millions de dollars avec OpenAI, donc ceux qui sont derrière ChatGPT. Rappel de l'actualité précédente sur ChatGPT qui délirait, pour y penser, pour intégrer ChatGPT dans les systèmes de rencontres.
Avec ChatGPT qui dit des bêtises, peut-être que sur un malentendu, ça pourra passer.
Ça pourrait être très très drôle. J'ai hâte de voir ce que ça pourra donner sur un site de rencontre. Du coup, je sais même pas ce qu'ils comptent faire avec ça. C'est pas détaillé. Ils disent on veut utiliser l'intelligence artificielle. Alors souvent, c'est une bonne façon pour gagner des sous, enfin pour avoir des investisseurs qui viennent donner de l'argent. On fait de l'intelligence artificielle.
Alors, les hallucinations sont donc inhérentes aux large language models. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça. Modèle linguistique étendu.
Ouais, je crois que ça va être ça à peu près la traduction en français. C'est compliqué. On est sur de la recherche. Et oui, c'est juste en conclusion de cette petite série. C'est un rappel. Alors, c'est un papier de recherche. Je ne me suis pas amusé à aller lire le papier de recherche, mais en très résumé. Les systèmes d'apprentissage d'intelligence artificielle, du coup, qui se basent sur des modèles de langage étendu, donc typiquement ChatGPT ou la plupart des trucs où ils prennent une masse de textes et ils apprennent comme ça du coup à parler, ces modèles-là, en fait, il y a une limitation inhérente à ça, c'est que ces systèmes-là vont halluciner. Et on ne peut pas l'empêcher. On peut mettre des tas de procédures pour réduire le risque d'hallucination, mais on n'arrivera jamais à zéro hallucination.
Les Jeux Olympiques de 2024 seront l'opportunité donc, pour un pouvoir sécuritaire d'augmenter les politiques de vidéosurveillance.
Non, de vidéoprotection.
Ah, j'ai mal assimilé la nouvelle langue.
Toujours.
Parce que si je me fais agresser, donc la vidéo, elle vient me protéger.
Exactement, la caméra, il y a une mitraillette intégrée dans la caméra, il va bien le viser.
Attention, Thierry, quand même. Hein.
Non, ça va, il n'y en a pas. Donc, moi, ça me fait marrer, parce que surtout, j'ai vu à plusieurs reprises dans les actualités...
Moi, non, mais après, bon, si tu prends ça avec le sourire, tant mieux.
Hein. Oui, c'est dur.
Fais de la chance.
Donc non, dans les actualités, là, on a entendu parler un peu partout, ça a été annoncé par Bruno Le Maire sur TF1, je crois, une baisse de 10 milliards des budgets. Par contre, on va tripler les subventions pour la vidéoprotection avant les JO. Hein.
Parce que les élus...
Bien vidéoprotéger les gens.
Les élus du Front National ont posé une question donc, au ministre. Alors comment qu'on fait pour filer des sous aux mairies qui ne peuvent pas s'équiper à prix exorbitant? Alors, si vous suivez le compte sur les réseaux sociaux de Jean-Marc Manac, qui est un expert en vie privée, je citerai pas les réseaux sociaux sur lesquels je le lis parce que il est pas cachère, il est pas très libre, mais il a aussi un compte sur Mastodon, donc je pense qu'il doit diffuser les mêmes informations. Prend beaucoup des exemples en fait de petites communes, genre des communes de 200-300 habitants qui commencent à installer 10 caméras pour un coût de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Donc des exemples absolument absurdes de patelins où il se passe en général pas grand chose et pour rassurer la population, c'est compliqué parce que la population dès qu'elle quand même largement favorable à vidéosurveillance, notamment quand elle vient d'être cambriolée ou qu'on vient de voler sa voiture. Donc ça, c'est un peu le réflexe que tu as dans la presse quotidienne régionale. C'est pas forcément très rassurant, parce que le premier qui se fait cambrioler, ce genre de choses, il dit « Ouais, mais alors, il n'y a pas de caméra, il faudrait qu'il y ait caméra dans ma rue. » Puis comme ça, enfin bref. Alors qu'il y a un rapport de la Cour des comptes. Bizarrement, la droite qui aime bien la Cour des comptes pour faire la chasse au gaspillage. Là-dessus, le fait que la Cour des comptes ait donc conclu qu'il n'y avait pas de différence significative entre des localités qui ont la vidéosurveillance et des localités qui n'ont pas la vidéosurveillance. En fait, il n'y a pas de différence probante en matière de sécurité, en matière de taux de résolution et en matière de taux d'élucidation, sur les taux de délinquance.
Juste pour finir cette actualité, parce qu'il y a une citation, je ne peux pas m'empêcher de la lire, parce que ça, c'est assez drôle. C'est une citation de notre GG. Attention, on va éviter de dire son nom, puisque les insultes ne sont pas autorisées à l'antenne. Donc, il a annoncé avoir demandé à chaque préfecture de préparer un plan de zéro délinquance pour les Jeux Olympiques. Et, citation, « Nous avons devant nous 18 mois pour faire ce travail de harcèlement et de nettoyage. » Ah, GG qui parle de harcèlement, moi ça me fait tout drôle. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de personne.
T'es content d'avoir fait barrage.
Ah ouais, ouais.
Pour vous remonter le moral, chères auditrices et chers auditeurs, nous allons écouter un premier morceau de musique. Nous allons écouter Courtney Nord, Daughter of the Water. Vous écoutez côté de nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. We'll be right back. C'était Courtney Nord d'Over the Water. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler logiciel libre, bien entendu. Pierre, tu voulais nous parler du retour sur CubeOS 4.2. Mais qu'est-ce donc que cette bête?
Voilà, CubeOS, pour rappel, sur un petit problème qu'il y a sur tous les ordinateurs personnels, c'est qu'il n'y a pas de bonne séparation entre les applications. Les applications, elles tournent toutes sur votre machine, elles sont toutes à égalité. Et souvent, il y a des tas de mécanismes qui existent qui sont indispensables. Par exemple, si vous faites la vidéoconférence, l'application de vidéoconférence, elle peut lire le contenu des fenêtres des autres applications. Si vous voulez faire du partage d'écran, c'est nécessaire. Ça semble logique jusque-là. Le problème, c'est que cette possibilité qu'a cette application-là, ça veut dire aussi que d'autres applications ont cette possibilité et peuvent le faire des fois sans vous prévenir. Et typiquement, ça veut dire que si vous lancez n'importe quelle application sur votre ordinateur, c'est un peu moins le cas maintenant qu'on lance moins d'applications, qu'on lance surtout des pages web, mais le problème reste en place. Si tu fais confiance à n'importe quelle application, elle a accès à énormément de choses. Elle a accès à tous les fichiers d'un coup, elle a accès aux données des autres applications, elle pourrait s'amuser à enregistrer pour voir quel est le mot de passe sur un compte bancaire, ce genre de choses.
C'est vrai que sous Linux, une distribution desktop normale, on n'a pas le système de permission comme celui d'Android. À chaque fois que vous installez une application, il vous demande est-ce que vous voulez que l'application ait accès à ça, ça, ça.
Et ça n'existe pas non plus sous Windows. Sous macOS, ça commence à exister pour les applications diffusées sous l'App Store d'Apple. Mais c'est pas la majorité des applications.
Apple est tellement respectueux de la vie privée, quels sont les problèmes ?
Voilà, c'est ça. Et donc, CubeOS, c'est une distribution Linux qui est orientée avec cet aspect-là en tête. Alors, eux, c'est en mode extrême. Leur objectif, c'est pas l'utilisateur lambda, c'est le journaliste, c'est la personne qui est dans un état totalitaire et qui a peur pour sa vie privée. Et donc, le principe du système, c'est d'utiliser toutes les technologies modernes que les Google, Microsoft et autres Amazon utilisent pour séparer les applications dans leur fabuleux cloud, c'est d'utiliser ça pour un environnement d'utilisateur. Et dire, là, t'as une machine virtuelle. En fait, tes fenêtres, elles tournent dans différentes machines virtuelles.
T'as deux doigts de dire que le cloud, la virtualisation et la vente de SaaS, ça a du bon.
Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les technologies qu'ils ont développées, elles peuvent être utiles. C'est pas pareil.
Déroule la bobine.
C'est ça. Donc, le principe sur CubeOS, c'est de séparer les applications par zone de confiance. Et donc, il y a la zone application pour tout ce qui est bancaire, gestion de budget ou autre. Il y a la zone bureautique, il y a la zone travail.
Je comprends ça un peu comme l'application de la dockerisation à l'usage grand public.
C'est un peu l'idée, oui. En plus poussé que la dockerisation, parce que là, tu vas jusqu'à isoler. Tu peux dire, là, je viens de brancher une clé USB, mais elle n'apparaît que pour la partie bancaire. Le reste du monde n'est pas au courant de l'existence de cette clé USB. Si la clé USB, c'est par exemple une carte à puce pour t'authentifier sur ton compte en ligne, ça a du sens. Alors, ça, ce genre d'interface, malheureusement, c'est plus compliqué à utiliser.
Il faut paramétrer.
Il y a un pré-paramétrage qui est présent. Et il y a des idées très rigolotes, genre les fenêtres ont des bordereaux de couleurs pour dire ça, c'est telle zone de confiance. Ça, c'est bleu, ça, c'est rouge, ça, c'est jaune. Tu distingues comme ça. C'est pour les paranoïaques, pour les gens qui ont peur pour leur vie privée, c'est nickel. Pour l'utilisateur lambda, c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que c'est intéressant de savoir que ça existe quand on a vraiment des raisons d'avoir peur pour sa vie privée. Donc là, effectivement, leur cible, les journalistes, les personnes qui ont des avis politiques non majoritaires, peuvent avoir envie de se protéger comme ça.
Les gens avec des avis politiques non majoritaires peuvent se retrouver quand même beaucoup plus nombreux d'ici...
D'ici 3 ans. Il ne va rien se passer. Voilà, donc, c'est bon à savoir. Peut-être que d'ici 3 ans, on fera des tutos. On verra. J'ai pas envie.
MariaDB, vous connaissez peut-être si vous faites un petit peu de base de données. C'est un fork donc, de MySQL, le fork qui est assez ancien, créé en 2009. Donc à l'époque, MySQL, qui faisait partie de la solution LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP.
Donc, voilà, tu commences à être vieux.
Voilà, c'était la grande mode. Donc c'était la base de données à la mode dans le web dans les années 2005-2015.
Années 2000, on peut dire.
Années 2000, voilà, des années 2000-2010.
Vas-y, prends ton coup de vieux. On peut parler des années 2000, c'était il y a 20 ans. Donc, vous l'avez pas vu, il a commencé à fondre en live en fait, là.
Je dément catégoriquement. MySQL qui a donc est passé sous l'égide d'Oracle, et donc à ce moment-là, donc un fork libre a été fait, et donc ce fork il est soutenu par une fondation, mais également pour commercialiser des services autour de cette base de données, il y a une entreprise qui a été créée, donc MariaDB Incorporated,
américain.
Entreprise de droit américain. Donc, cette entreprise, a priori, elle a fait une entrée en bourse qui s'est assez mal passée. Je ne commenterai pas le volet financier, ce n'est pas de notre ressort. En tout cas, elle a reçu, et après, ce n'est pas la première, une offre donc, d'achat de l'un de ses actionnaires. Donc, ce n'est pas contraignant, ils ne sont pas obligés d'accepter. Mais, c'est-à-dire que des fonds d'investissement pourraient donc, prendre possession d'une entreprise qui édite donc un logiciel, enfin, qui édite. Qui fait du support.
Qui reste la principale force derrière le logiciel.
Et qui est également la force de développement, effectivement, du logiciel. Donc, alors, ça, c'est un logiciel libre, donc on peut toujours le forquer. Mais jusqu'à présent, c'était les fondateurs qui contrôlaient la société. Le voir passer sous des mains qui ont juste un objectif d'investissement et de financiarisation, c'est quand même plutôt inquiétant.
Et ça permet de rappeler l'intérêt, le logiciel libre, l'un des intérêts, c'est l'aspect communautaire du logiciel libre. C'est là où j'ai tendance à essayer de faire une différence entre du logiciel libre et open source. Je considère un libre, c'est qu'il n'y a pas une entité qui peut prendre le contrôle et qui peut écraser tout le monde. On va encore avoir un autre exemple dans une autre actualité juste après. Là, le logiciel est libre du point de vue de la licence. Voilà, ça respecte le principe du logiciel libre. On peut le partager, on peut l'étudier, on peut le redistribuer, on peut le modifier. Mais l'entité qui contrôle son développement, bon, déjà, outre le passé compliqué avec l'histoire avec Oracle, on ne va pas en parler parce que c'est assez long et complexe techniquement. Là, on a une entreprise, bah, elle se fait racheter, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, on n'est pas plus en sécurité que dans le monde où on dépend de logiciels propriétaires qui sont édités par un seul éditeur. On est même moins en sécurité, puisque là, l'éditeur, il n'avait pas de pognon. Donc,
pour qu'un logiciel soit libre, en fait, il faut que ce soit soutenu par une fondation avec de multiples financements.
C'est ça, il ne faut pas que ce soit une seule entité. Là, c'est le cas.
En gros, c'est Debian, quoi.
Debian, LibreOffice. LibreOffice, il y a plusieurs personnes derrière. C'est LibreOffice, c'est un excellent exemple de logiciel libre. Ils ont des problèmes de financement.
Firefox, qui est
Firefox, ça me pose problème. Moi, ça me gêne qu'il n'y ait qu'une seule entité derrière Firefox.
Les difficultés du projet Nginx, Pierre.
Justement,
tu veux en parler.
C'est la même idée. On parle de logiciel libre. Alors, Nginx, c'est un logiciel libre très peu connu du grand public.
Mais très utilisé.
Vous n'avez pas idée, vous l'utilisez tous les jours, tout le temps. C'est l'un des principaux serveurs web, en fait. Donc, il n'y a pas à réfléchir, on n'arrête pas d'utiliser. Eh bien là, il y a un petit problème, et ça illustre à nouveau ce qu'on vient d'évoquer sur MariaDB. Il y a une entreprise, alors F5, qui est une entreprise américaine de mémoire, qui embauchait jusque 2022, qui embauchait l'un des principaux développeurs fondateurs de Nginx. Ce développeur a un petit défaut, c'est qu'il est russe. Donc jusqu'en 2022, ça allait, mais c'est devenu un problème, on va dire, en 2022, quand l'entreprise a dit bah, « on ferme nos bureaux en Russie, on ne peut plus embaucher de Russes ». Le développeur a continué de travailler volontairement sur le projet, mais il se rend compte que la société en question, ils ont commencé à prendre des petites libertés avec les objectifs techniques du logiciel. Et a commencé à dire « certaines fonctionnalités de sécurité, c'est payant ». Hein, ça c'est pas libre. En fait, c'est le logiciel libre. Ouais, mais finalement, ça nous arrange pas que ce soit libre pour tout. On va se faire de l'argent à côté sur des éléments qui sont indispensables au logiciel, mais c'est pas grave. Donc là, le développeur en question a décidé de la même façon de forquer pour faire un clone vraiment libre d'Nginx, mais on retombe sur la même problématique. Est-ce que c'était vraiment libre ? Moi, ouais. Je l'en doute.
Un logiciel peut-il être réellement libre en Russie ? C'est une autre question.
Vous avez 4 heures. Libre en Russie ?
Vous avez 4 heures. Dernier sujet, logiciel et matériel. AMD a financé un support de CUDA sur ROCm et le Liber. Tu vas nous traduire tout ça, Pierre.
Oui, c'est un petit sujet qui est assez rigolo, je trouve, pour parler d'un problème technique. Aujourd'hui, le marché des cartes graphiques, il y a deux fabricants et demi. Il y a Nvidia, bien plus loin derrière, il y a AMD, et encore plus loin derrière, il y a Intel. Ouais, là, non mais les actualités, il y a 20 ans, on ne va pas les faire.
Ok, vous deviez tout ça.
Ah bah ouais, là c'est vieux, ça date de 2008, je crois. Donc oui. On n'a pas parlé dans l'émission, ça date d'avant l'émission. Et donc, le problème, c'est pour utiliser les cartes graphiques, quand il faut faire un jeu, par exemple, il n'y a pas de problème. Ça passe tout seul, on utilise alors les DirectX, les OpenGL, les Vulkan, toutes les technologies qui sont standardisées, et on fait le jeu et ça marche à peu près sur toutes les cartes graphiques. Là, jusque-là, tout va bien. Mais nous sommes dans un monde fabuleux où on se rend compte qu'une carte graphique, ça fait plein d'autres choses. Notamment, tout ce qui est intelligence artificielle, ça repose sur des fermes de cartes graphiques. Ils en empilent des milliers dans des boîtes.
Il fut un temps que c'était miné du Bitcoin.
Oui,
c'est ça. À l'époque où ça rapportait.
Oui, c'est ça. Ben, c'était le même problème, le Bitcoin. Et là où on tombe sur quelque chose de rigolo, c'est qu'il y a certes un standard pour programmer les cartes graphiques comme ça, OpenCL, mais personne ne s'en sert. Notamment parce que certains fabricants, Nvidia, ont décidé de l'implémenter partiellement, ou pas à jour, ou plus lent, au choix. Et donc les fabricants poussent pour qu'à la place on utilise leur propre solution propriétaire, ben là en l'occurrence CUDA chez Nvidia. Et on tombe sur, ben, si tu veux utiliser ce logiciel-là, par exemple là c'est même sur certains logiciels libres, logiciels de 3D comme Blender, si tu veux l'utiliser complètement, tu veux améliorer les performances, tu dois acheter une carte graphique de ce fabricant-là, avec la solution logicielle propriétaire de ce fabricant-là, et relier l'ensemble. Alors ça va marcher, hein, c'est bien testé, c'est bien validé et tout, mais tu es complètement enfermé auprès d'un seul fabricant. Et la concurrence, en l'occurrence AMD, était complètement exclue du marché, puisque vous pouvez acheter nos cartes, elles sont moins chères, elles sont plus rapides. Ah oui, mais par contre, le logiciel, ils ne vont pas marcher. Il y a un gros souci. Alors, AMD a travaillé sur cette solution-là pour permettre d'utiliser les applications CUDA sur leurs cartes. Alors, c'est assez exceptionnel comme travail quand on regarde ce que c'était. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est la façon dont ça a été fait. C'est quelqu'un qui avait lancé cet effort-là en indépendant de son côté, vraiment, petit logiciel libre comme ça. Puis AMD les a contactés en disant, bon, on vous paye à temps plein. On vous file le pognon, vous bossez sur cette solution-là, et si finalement on décide que bon, on n'en fait rien parce que le marché évolue d'ici là, vous avez le droit de le sortir en logiciel libre, tout ce qu'on aura développé. Et c'est ce qui s'est passé finalement. AMD a décidé, pour diverses raisons liées à l'intelligence artificielle, notamment que c'était trop tard pour sortir ça, donc à la place, c'est sorti en logiciel libre. Et bon. Je trouve le geste économique assez intéressant.
Merci Pierre, nous allons écouter un deuxième morceau de musique, Michael Ellis, My Garden. Vous écoutez les Google News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campusly.com.
Sitting in my garden, under the trees, been standing here waiting for hundreds of years. Can't say for certain if it's night time or day, but what does it matter? Sitting in my garden, I don't care about real or illusion, with or without. Of people stay where they are. I am watching the world from afar, because the warm is the sun that blesses me, and cool as the wind caressing me. You are distraction and days, chaos and disarray. Calm is the earth and the world's a catching the light in her eyes. Sounds of bees come to my ear. the light in her eyes.
C'était Michael Ellis, My Garden. Vous écoutez Les Côtés Gnous sur Radio Campus en 16,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités. Des actualités en vrac diverses et variées. On va commencer par Google. Les développeurs de Chrome introduisent le micro-paiement.
Oui, c'est le retour du Minitel. Il était temps.
Ah,
n'est-ce pas magnifique?
Vous savez, il y avait un prophète nommé Alain Minc qui avait prédit qu'Internet n'aurait pas le succès du Minitel parce qu'on ne peut pas facturer facilement le service. Cette personne est écoutée hein, dans les sphères publiques hein, à la main, hein, c'est pas.
Ouais, mais je sais. Mais et justement là, c'est des ingénieurs de chez Chrome, Eddie Gallia également, qui ont annoncé leur intention d'intégrer le prototype de web monetization.
Quoi, Lady Gaga ou c'est moi qui t'as dit Lady Gaga ou j'ai une hallucination sonore?
J'ai peut-être mal prononcé.
Ouais,
déconner. Mais donc. L'intention d'introduire le web monetization, alors c'est très simple, c'est pour permettre au site web d'avoir des micro-paiements, donc un paiement de 0,001 centime par visiteur, ce genre de choses. Plutôt que de dépendre de la publicité, l'idée c'est que les gens vont pouvoir mettre 10, 20 euros par mois sur leur navigateur web et ça
permet. Mais ça, en même temps, c'est quelque chose que tu dénonçais un peu, Pierre, le fait que tout s'agrandit sur Internet, ça crée une dépendance à la pub.
Voilà, mais moi, je suis content de ça.
On a été précurseurs en France, en réalité.
C'est un problème qui n'a pas été résolu. C'est un problème.
Vous avez des abonnements en ligne pour les sites d'information, ce qui marche des fois pas si mal. Hein. Bon, Mediapart est l'exemple quand même. Ou les jours également, hein, qui s'en sort pas si mal, notamment.
Oui, oui. Mais il n'y a pas de réponse, effectivement. Aujourd'hui, tu peux aller sur plein de. Il y a plein de sites web où tu es juste tabassé de publicité et toute ton activité va être fliquée. Uniquement pour financer le site. C'est un problème. C'est un rapport malsain, parce qu'on ne te dit pas que tu payes. Tu es en train de payer, puisque tes données elles sont en train de fuiter, tu te fais profiler dans tous les sens, mais tu ne le vois pas. On te fait croire que tout est gratuit. Et moi, je suis du coup content qu'il y ait ce genre de développement. Alors, c'est pas développé directement par Google, donc j'ai des gros doutes sur le fait que ça survive, mais c'est vraiment bien qu'il y ait enfin des efforts qui soient faits, des réflexions pour comment on fait en fait pour faire financer Internet autrement que par l'exploitation de la vie privée des gens.
Est-ce que Google acceptera de tuer la pioule aux œufs d'or? C'est quand même.
Non, non.
On peut
non,
avoir
non,
quelques doutes sur
non,
la question.
Ça ne le feront pas. Mais il était temps quand même qu'il y ait des trucs là-dessus.
La semaine dernière. Il y a deux semaines, pardon, lors de l'émission précédente, le temps passe si vite quand tu n'es pas là, ça veut rien dire. Donc on vous a parlé d'une manie apparue donc, chez Edge, de voler les onglets Chrome, de naviguer sur Chrome, vous retrouviez quelques temps plus tard avec le même onglet, mais en fait c'était Edge. C'était un bug, défend Microsoft.
C'est ça, on n'a pas fait exprès, on a glissé. On ne l'a pas vu, pardon, désolé. Je résume la défense de Microsoft. Donc, le principe, donc, dans leur navigateur Microsoft Edge, on peut importer le profil actuel de Chrome parce que c'est pour aider les gens à migrer sur leur navigateur et donc leur service. Et ils ont dit, en fait, c'est des cas où ça s'activait tout seul sans qu'on l'ait demandé, sans que l'utilisateur l'ait validé. Pardon, on l'a enlevé. Mais
on l'a codé par inadvertance.
C'est allumé tout seul.
C'est ChatGPT qui a codé, hein, donc forcément, c'est pas ce qu'il fait.
Voilà, c'est ça. Non, j'aime beaucoup l'excuse. On a fait quelque chose d'assez immoral et probablement illégal, mais on l'a pas fait exprès, c'est un bug. Moi, j'adore. Moi, je vais toujours me défendre comme ça. Il y a eu un feu rouge. Non, c'est un bug. C'est un bug du feu rouge.
Oui, bon, c'est comme les gens qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux, les gens connus. Non, en fait, je me suis piraté mon compte.
Ça arrive jamais, ça.
Pierre, la sécurité, c'est facile. Pour éviter le vol de voiture, le Canada envisage l'interdiction du Flipper Zéro.
Tout à fait. Et je trouve ça fantastique. Donc, on va un petit peu expliquer ce que c'est tout ça. Le Flipper Zéro, c'est un tout petit appareil. Alors, ça tient dans la main. Ça fonctionne avec une batterie. C'est programmable. C'est mignon. Il y a un pingouin pour l'illustration. C'est trop joli, tout ça. C'est un petit appareil qui est programmable. Alors, c'est pas du tout à destination du grand public. Ça permet de jouer sur les fréquences radio. Il y a une puce dedans et on peut envoyer des messages sur plein de fréquences et écouter les messages sur plein de fréquences. Alors certains s'en servent pour dupliquer des clés pour chez eux, pour écouter les clés, pour vérifier la sécurité. En fait, c'est des chercheurs en sécurité qui peuvent aussi servir de ça, même si c'est clairement pas du matériel adapté, parce que c'est un machin qui coûte quelques centaines d'euros, alors que du vrai matériel, on évite à 5-10 000 euros. C'est compliqué de faire de la radiofréquence, surtout sans matériel directement lié à une fréquence spécifique. Mais on va pas faire un cours de théorie du signal, parce que j'aime pas ça. Et donc, le Flipper Zero est accusé par des fabricants de voitures d'être utilisé pour du vol de voitures. Des voleurs achèteraient des Flipper Zero, mettraient des programmes dedans pour voler les voitures.
Ce que pas forcément... C'est peut-être ça, des trucs packagés à destination des apprentis cambrioleurs. Hein.
Et donc, la réaction au Canada, c'est de dire bon, on va interdire le Flipper Zero. Alors, moi, j'attends le moment où on va dire alors, on peut crocheter les serrures avec des épingles à cheveux. On va interdire les épingles à cheveux.
Hein, on va interdire les pieds de biche également.
Oui. Ça sert à quoi un pied de biche à part à fracturer une porte? C'est vrai. Et pour la blague, le Flipper Zero est bien... bien trop peu puissant pour être réellement utilisé pour du vol de voiture, surtout du vol de voiture en masse. Et par ailleurs, peut-être que si un fabricant de voiture constate qu'on peut voler la voiture avec juste un machin aussi basique que le Flipper Zero, le problème est peut-être sur la sécurité de la voiture et pas sur le Flipper Zero. Hein, c'est peut-être un peu bizarre qu'on puisse voler la voiture aussi facilement.
On avait parlé sur les États-Unis, c'était pas Hyundai qui était particulièrement vulnérable. Je crois.
Ouais.
Il y avait deux marques de voitures.
On avait parlé, ouais. Je sais plus les marques. Puis chut, pas de marque, je te rappelle. Et on avait aussi parlé de vol de voiture par le pare-choc. Par les feux avant. Mais ça aussi, mais ça on va pas en parler. Non, c'est eux les vilains. C'est leur faute. C'est pas la faute des fabricants de voitures. N'oublie pas. Important.
Merci Pierre, c'était l'actualité des deux semaines écoulées. Tout de suite la dégeekalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons donc écouter Luke Davis, Remarkable Plans. Vous écoutez Code Geek sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. Only takes a moment to get it right. Only takes a second to fail. But if you play like a fool, suffer the rules to make it right. Only takes a minute to see it through. That's when it matters the most. Stay true to the girl. Give her the world and she'll hold on to you. Takes a second to fail. Don't C'était Luke Davis, Remakeable Plans. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6 et 6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. Pierre, un erratum, oui.
Tout à fait, c'était un dauphin, pas un pingouin.
Faut, c'est pas
quand
pourquoi,
tu dis penguin en anglais, tu dis pingouin comme un con.
Vos excuses sont acceptées. Pierre, c'est donc l'heure de la déguiclisation, l'affaire du siècle. Entre ouvertes, une charmante PME du logiciel libre contre Orange, un non moins charmant opérateur anciennement étatique français.
Alors, plus exactement, Orange Business Services.
C'est pas, la c'est branche la... service informatique.
C'est ça. Alors, avant toute chose, en tant que parfait journaliste dans cette émission, je me dois de déclarer un conflit d'intérêts mineur. Je suis salarié de la société Entrouvert, pas de l'époque des faits, mais du coup... C'est une scope, donc je suis au courant de ce qui se passe, j'ai l'historique par rapport à cette affaire.
Tu es même donc actionnaire de cette entreprise.
Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a longtemps, genre il y a 10 ans quasiment, Entrouvert était une entreprise qui développait un système des outils par rapport à l'authentification en ligne, et notamment par rapport à la norme SAML, qui est une norme quand même assez complexe. Il existe peu d'implémentations complètes de cette norme. L'une des rares qui existe, c'est celle d'Entrouvert, qui s'appelle l'ASSO. Et Orange Business Services souhaitait répondre à un appel de l'État pour je ne sais plus quelle lubie de services en ligne à l'époque, où ils avaient besoin d'une solution qui soit certifiée SAML. Et il faut que ce soit géré. Donc Orange a dit, bon, soit on développe nous-mêmes, ça va nous coûter une blinde, soit on passe par une solution qui a déjà été développée, qui est déjà présente. On va voir pour utiliser l'ASSO. L'ASSO est un logiciel libre diffusé sous licence GPL. La licence GPL, c'est l'une des licences fondamentales du monde du logiciel libre, qui donc certes garantit les quatre libertés fondamentales, la liberté d'utiliser le programme, de l'étudier, de le modifier, de le redistribuer. Mais elle a une contrainte, c'est ce que les détracteurs du logiciel libre appellent la contamination. Si on utilise ce logiciel dans un logiciel tiers, le logiciel tiers doit à son tour respecter ces quatre contraintes et doit distribuer les modifications, etc.
Vous devez faire bénéficier à ceux qui vous redistribuent le logiciel les mêmes libertés auxquelles vous avez bénéficié.
Exactement.
Dont vous avez bénéficié. Pardon.
Pour un logiciel comme l'ASSO, c'est pas optimal de devoir respecter ces quatre libertés, dans le sens où c'est une brique logicielle qui va être utilisée par d'autres. Et donc, c'est une astuce qui était très très fréquente à l'époque, dans le monde du logiciel libre, entre guillemets, commercial, c'était de dire, le logiciel est sous licence GPL si vous voulez faire du libre, si vous voulez pas faire du libre, venez nous voir, on a des licences propriétaires pour vous. Et on vous vend du support avec, etc. C'est un modèle qui marche très bien dans le monde du logiciel libre, il y a des stats logiciels qui existent qui respectent ça. Orange est venu à contacter Entrouvert. Elle a dit, bon, écoutez, on souhaiterait répondre à l'appel d'offres en question, on voudrait voir comment ça pourrait marcher, discuter, ceci, cela. Ils ont discuté un certain temps, et du jour au lendemain, ils ont coupé les ponts. C'est voilà, plus rien. Donc du côté d'Entrouvert, c'était, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, peut-être qu'ils ont trouvé une autre solution, peut-être qu'ils ont abandonné l'appel d'offres, on ne sait pas. Puis Entrouvert, à l'époque, était trop petit pour répondre à un tel appel d'offres. C'était une entreprise avec moins de 5 salariés, quoi. Ça tenait pas là, c'était pas possible. Et il se trouve qu'ils ont découvert que Orange avait répondu à l'appel d'offres et avait utilisé l'ASSO, et avait même utilisé les informations qu'ils avaient glanées auprès d'Entrouvert sur l'utilisation du logiciel, sans respecter la licence GPL, enfin sans respecter les obligations de la licence GPL, ni acheter de licence commerciale. Donc la société Entrouvert n'a pas eu de choix que de contester auprès d'Orange. Orange a nié les faits. Entrouvert a donc dû aller en justice. Première instance, alors j'ai plus les dates des différentes affaires en tête. Il y a eu un passage en première instance où Entrouvert s'est fait pulvériser. Entrouvert a changé d'avocat, s'est passé en appel, rejet en appel. Mais en appel, c'est allé au point de dire, puisque vous diffusez le logiciel avec le code source, vous en refusez tous les droits. Vous n'avez plus de droits, vous le mettez dans le domaine public, quoi, c'est tout. C'est ce jugement-là, s'il avait été resté le vrai si c'était resté le vrai
oui,
jugement,
si ça avait fait jurisprudence, oui,
ça aurait été une catastrophe puisque le logiciel libre devenait inexistant en France. Il y avait soit le logiciel propriétaire, soit le domaine public.
Mais nous avons également la Cour de cassation.
Exactement, c'est allé en Cour de cassation et la Cour de cassation a dit, vous avez rien compris, la licence elle est valable et vous devez l'appliquer. Je vous simplifie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
La Cour de cassation, elle ne juge pas des faits, elle dit comment il faut interpréter le droit.
Tout à fait. Et donc, c'est revenu maintenant en cour d'appel, puisque après la Cour de cassation, ça repart en jugement une autre cour d'appel que la précédente. Et la Cour d'appel a tranché. Orange Business Services est coupable de parasitisme et non-respect de la licence GPL. C'est la première fois en France que la licence GPL est reconnue comme valide. Orange a été condamné à 800 000 euros plus 60 000 euros de dédommagement de frais de justice. Malheureusement, Orange n'a pas été condamné à publier la décision de justice. Ça aurait peut-être été un peu trop loin en termes de fessée publique. Mais Orange a été condamné pour non-respect de la licence GPL. C'est une des premières fois en France. Et je me permets de préciser, c'est une information que c'est quelque chose que les collègues ont beaucoup en travers de la gorge, en tout cas les plus anciens. Ça fait plus de 10 ans que Entrouvert se base sur ça, et pour le coup, les associations du logiciel libre n'ont jamais soutenu Entrouvert sur ces démarches. À chaque fois, c'était « on va pas vous aider, vous allez perdre, vous ne pouvez pas gagner face à ça
bon. ».
Donc Orange...
Ils y ont cru et ils ont eu raison.
Voilà, Entrouvert réussit.
Même l'April...
L'April a refusé. En 2012, l'April a refusé de soutenir Entrouvert. Donc ça a été très compliqué pour l'entreprise a failli couler plusieurs fois à cause de ça. Ça a coûté très cher. Et pour une boîte qui, à l'époque, n'avait pas trouvé son marché, n'avait pas fait son produit, ça aurait été... Entrouvert aurait pu décoller à l'époque et créer des produits sur ce marché-là. Ça n'a pas été le cas à cause d'Orange. Orange a failli finalement se faire du pognon sur le dos d'une PME au mépris du logiciel libre.
C'est beau, les anciennes boîtes publiques.
Oui, c'est ça. Et si Entrouvert n'avait pas eu le courage de tenir jusque-là, ben, ils auraient gagné puisque ben, il n'y aurait eu personne au procès.
Merci Pierre pour cet éclairage. Petit point rapide sur l'agenda après-demain, donc mardi 27 février de 19h30 à 22h, la permanence du logiciel libre, donc de l'association Ch'tinux au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille Métro République Beaux-Arts, comme tous les derniers mardis du mois. Dans deux semaines, on se retrouve pour l'Écho des Gnous 269. 19h à 20h, comme d'habitude, sur Radio Campus. Dans une semaine, ce sera Semaine Impair. Et donc, vous avez rendez-vous avec la deuxième ligne, émission consacrée au jazz, et notamment le jazz de la Nouvelle-Orléans. Et tout de suite, on se retrouve avec Chupa Pimento. Au revoir à tous, bonne fin de week-end.
Bye bye, et vous avez un jingle pour la fin. C'est bien.
Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle.